VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 12 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, report d'un an des élections municipales.
Au Sénégal, nouveau report du procès en appel du maire de Dakar, l'opposant Khalifa Sall.
Et la justice monégasque a refusé de confisquer les biens d'un autre opposant sénégalais, Karim Ouad.
Au Burkina Faso, le Conseil d'État annule pour vice de forme des sanctions du Conseil supérieur de la magistrature contre des magistrats.
Fin aujourd'hui à Bruxelles du sommet de l'OTAN, dominé par les critiques du président américain Donald Trump sur le financement de l'Alliance.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, les élections municipales initialement prévues en 2018 ont été reportées d'un an. L'annonce a été faite hier à la Radio Nationale. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Selon le décret signé par le président Paul Biya, le mandat des conseillers municipaux est prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 15 octobre 2018. Les élections locales devaient en principe se tenir avant la fin de l'année, parallèlement aux élections présidentielles et législatives. Début juillet, les législatives ont été reportées. Le scrutin présidentiel est fixé au 7 octobre. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer l'ajournement des élections locales. Pour les législatives, la raison avancée pour leur report est le chevauchement de l'ensemble des scrutins prévus fin 2018 qui compliquerait leur organisation. Tous ces scrutins se tiendront dans des conditions sécuritaires tendues, avec Boko Haram qui sévit dans l'extrême nord du pays, alors que les régions anglophones sont confrontées à une grave crise.
Cameroun toujours, une enquête a été ouverte dans le pays après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo devenue virale montrant des hommes armés, des militaires camerounais présumés, en train d'exécuter deux femmes et leurs enfants à genoux, accusés d'être des complices du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du gouvernement, Issa Tioroma Bakari, a dénoncé mercredi soir une fake news, qualifiant cette vidéo d'horrible trucage. Malgré tout, a-t-il ajouté, le président Paul Biya a demandé l'ouverture d'une enquête.
Au Sénégal, nouveau report du procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné en mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. C'est pour statuer sur sa demande de remise en liberté. Le procès reprendra le 18 juillet. Abdourahman Dia.
Depuis l'ouverture du procès en appel lundi, la défense réclame la libération d'office de Khalifa Sall, détenu depuis mars 2017. La cour avait pourtant rejeté lundi et mardi les demandes de la défense d'un renvoi de quelques jours du procès. La défense avait notamment justifié cette demande de renvoi par un arrêt rendu le 29 juin par la Cour de justice de la CEDEAO, qui n'a toujours pas été publié officiellement. Selon la défense, cet arrêt de la juridiction communautaire a conclu au caractère arbitraire de la détention préventive de Khalifa Sall, ainsi qu'à la violation de sa présomption d'innocence et de son immunité parlementaire. De son côté, l'État assure que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO ne concerne pas le fond et ne remet nullement en cause l'autorité de la chose jugée. Avec sept de ses collaborateurs, Khalifa Sall a été condamné en première instance pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 2,5 millions d'euros prélevés entre 2011 et 2015 des caisses de la mairie de Dakar.
A signalé aussi, concernant toujours le Sénégal, que la justice monégasque a rejeté une demande de Dakar sur la confiscation des fonds monégasques de Karim Ouad. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad et opposant au pouvoir a été condamné au Sénégal en 2015 à 6 ans de prison ferme, à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens.
Au Burkina Faso, le Conseil d'État a annulé des sanctions contre des magistrats, limogés ou punis pour manquement à l'éthique et à la déontologie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La présidente de la Cour de cassation, Thérèse Traoré, et son procureur général, Armand Ouedraogo, ont été mis à la retraite d'office, tandis qu'un troisième a été révoqué. 6 autres magistrats ont été rétrogradés, 7 ont baissé d'échelon et 2 ont subi des blâmes. Le Conseil d'État a annulé ces sanctions décidées par le Conseil supérieur de la magistrature pour vice de forme. Elles ont été prises suite à des présomptions de violation des règles d'éthique et de déontologie. Parmi les affaires examinées, celle des mandats d'arrêt lancés contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. La justice militaire avait émis un mandat d'arrêt contre M. Soro avant de l'annuler. En février, 4 magistrats accusés par une commission d'enquête de monnayer leurs services ont été sanctionnés pour manquement à l'éthique. Élu en novembre 2015, le président Roch Kabore a annoncé lors de sa campagne électorale faire de la lutte contre la corruption une priorité de son mandat.
En Guinée-Bissau, les fonctionnaires ont marché hier dans la capitale Bissau pour examiner du gouvernement une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de vie. Précision de John Linden.
La marche a réuni environ un millier de personnes à l'appel de la centrale la plus représentative dans la fonction publique, avec 8 000 membres sur quelque 13 000 fonctionnaires. Les manifestants ont scandé des slogans et sur leurs pancartes, on pouvait lire « Abat les députés payés pour ne rien faire » ou encore « Nous exigeons des salaires dignes et de meilleures conditions ». Pour Julio Antonio Mendoza, secrétaire général de l'UNTG, l'augmentation des salaires des ministres et députés est inacceptable alors que ceux des autres serviteurs de l'État traînent des salaires de misère. Les salaires des députés sont passés de 650 000 à 850 000 francs CFA fin mai, avec une dotation d'un véhicule 4x4 à chacun des 102 législateurs. L'UNTG réclame un relèvement du salaire minimum de 19 200 à 59 000 francs CFA. La semaine dernière, le premier ministre Aristide Gomez a affirmé à la presse que les revendications des agents de l'État sont justes, mais que la méthode utilisée pour les satisfaire n'est pas appropriée.
À la veille de renouveler pour un an la force de paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour, la MINUAD, le Conseil de sécurité est d'accord pour la réduire, mais divisé sur le rythme à retenir pour y parvenir, selon des diplomates. Le mandat de la MINUAD arrive à expiration vendredi et un vote du Conseil de sécurité doit intervenir d'ici là.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le sommet de l'OTAN se termine aujourd'hui à Bruxelles. Le président Donald Trump a demandé aux pays alliés d'augmenter leurs dépenses de défense à hauteur de 4% de leur PIB, tout en accusant Berlin d'être sous le joug de Moscou. Raissa Gironda.
L'Allemagne est prisonnière de la Russie, a lancé le président américain. Donald Trump a accusé Berlin d'enrichir la Russie et de ne pas assez contribuer aux efforts militaires fournis par l'Alliance. Le président américain a eu un tête-à-tête avec la chancelière allemande en marge du sommet. Ils ont discuté du projet de doublement du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, auquel les États-Unis sont fortement opposés. En séance plénière, Trump a ensuite insisté pour que les alliés respectent l'engagement pris en 2014 de consacrer 2% de leur produit intérieur brut à la défense en 2024, puis leur a demandé de porter ces dépenses à 4% de leur PIB. Le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Hasselborn, juge que cette approche comptable est un peu absurde. Le président de la Bulgarie, Roumen Radev, a renchéri en déclarant que l'OTAN n'est pas un marché où l'on peut acheter la sécurité. Une quinzaine d'États membres, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, la Belgique et l'Espagne sont sous les 1,4% du PIB en 2018 et seront incapables de le respecter.
Nous reviendrons sur le sommet de l'OTAN en seconde partie de cette édition.
La Chine se dit choquée par la décision de l'administration Trump de préparer des taxes douanières de 10% sur 200 milliards d'importations chinoises supplémentaires, le dernier développement dans une guerre commerciale croissante entre les deux principales économies du monde. Pékin a qualifié cette décision de totalement inacceptable et promis des représailles. Selon le représentant américain pour le commerce, Robert Lighthizer, l'administration a patiemment tenté d'exhorter la Chine à mettre fin à ses pratiques déloyales, à ouvrir ses marchés et à s'engager dans une véritable concurrence basée sur les forces du marché.
Des tirs de missiles israéliens ont touché hier des positions de l'armée syrienne dans le sud-ouest de la Syrie. C'est ce qu'a annoncé l'agence d'État syrienne Sana. L'armée israélienne a confirmé dans un tweet avoir frappé 3 positions militaires en Syrie en réponse à l'infiltration d'un véhicule aérien sans pilote en Israël depuis la Syrie, qui a été intercepté par les forces armées israéliennes.
Au Japon, les inondations et glissements de terrain dans l'ouest du pays ont tué au moins 199 personnes. C'est ce qu'a annoncé ce matin le porte-parole du gouvernement.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Maintenant, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
L'opérateur de téléphonie Orange Côte d'Ivoire a lancé sa carte bancaire Visa. Cette carte de retrait et de paiement, baptisée Orange Money, permet de faire des transactions dans la zone UMOA. Réservée aux clients de plus de 21 ans, elle permet des achats dans les magasins équipés d'un terminal de paiement électronique et elle permet aussi de faire ses achats sur Internet. Grâce à un partenariat avec Visa et la Banque Atlantique, Orange Côte d'Ivoire devient le premier opérateur à proposer cette innovation dans le secteur des télécoms. L'attractivité de la Côte d'Ivoire a le vent en poupe, selon Emmanuel Esmel-Essis, directeur du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Plus de 7000 entreprises ont été créées dans le pays au premier semestre 2018, dont 47% dans les prestations de services et 29% dans le commerce. Au Bénin, le gouvernement vient de recevoir un don de 40 millions de dollars, soit environ 22,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour accroître l'accès des populations vulnérables aux services sociaux essentiels grâce au projet Access. Les communes décentralisées recevront des subventions qui leur permettront d'investir dans l'éducation, la santé, le réseau routier et les infrastructures de marché.
Les sports, la page sport avec Nicolas Puneau.
Bonjour Lisa, bonjour à tous. France-Croatie, ce sera donc l'affiche de la finale de cette Coupe du Monde 2018. Incroyable Croates qui encore en prolongation sont allés chercher la qualification. La demi-finale avait pourtant très mal démarré avec un but dès l'entame de match des Anglais par Trippier. Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir la Croatie revenir au score grâce à Perisic. On s'achemine alors vers les prolongations et c'est dans ces 30 minutes supplémentaires que Mandzukic crucifie les espoirs anglais. Une victoire finale 2-1 pour les Croates qui accèdent à la première finale de leur histoire. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin.
Bonjour, c'est la Croatie qui, au bout de la nuit moscovite, retrouve la France pour une finale inédite sur cette même pelouse dimanche. Mais que ce fut difficile. L'équipe croate, déjà éprouvée par 2 prolongations et autant de séances de tirs au but successives, a trouvé des ressources insoupçonnées pour négocier et gagner une nouvelle prolongation, heureusement victorieuse cette fois-ci, avec ce but libérateur de son immense avant-centre Mario Mandzukic à la 109e minute. Jusque-là, les Anglais dominateurs sur la pelouse, Thomas Coin, dès l'entente de la rencontre, avaient commis l'erreur de rechercher trop timidement le but du break qui leur tendait les mains. En marquant contre le cours du jeu à la 68e minute, l'attaquant croate Perušić a déréglé durablement la belle mécanique anglaise, le coup fatal venant dans la seconde partie des prolongations. Les joueurs anglais ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, eux qui ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Une fois de plus, un prétendant sérieux tire sa révérence prématurément, laissant la voie libre à une talentueuse mais surtout courageuse formation croate qui n'est pas loin de terminer sa course comme la tortue de la fable. La France, logiquement favorite de la finale, ne doit pas oublier qu'une finale est toujours un match à part qu'il faut se garder de jouer avant. L'expérience malheureuse de 2016 face au Portugal est là pour le rappeler. À dimanche pour le bouquet final.
Aucun match jusqu'à samedi où aura lieu la petite finale entre l'Angleterre et la Belgique pour la 3e place. Et dimanche, 15h temps universel, la grande finale à Moscou, France-Croatie. Les Croates qui voudront laver la défaite en demi-finale en 1998 face à une certaine équipe de France qui allait devenir championne du monde à domicile. Vous retrouvez les dernières infos sur cette Coupe du Monde sur notre site internet VOA Afrique et notre page Facebook VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle aura lieu bel et bien le 23 décembre 2018, assure le premier ministre congolais Bruno Tshibala dans une interview accordée à John Linden, notre envoyé spécial à Kinshasa. Monsieur Tshibala évoque aussi la question d'une candidature éventuelle du président Joseph Kabila. Une question qui, à son avis, ne devrait pas se poser. Le président sortant respectera, a-t-il souligné, la Constitution et donc ne se représentera pas.
Au moment où nous parlons, les partis politiques et les regroupements sont en train de se bousculer à la porte de bureaux d'enregistrement des candidatures pour déposer justement leur candidature. Et donc, tous les saints Thomas sont aujourd'hui édifiés. Le Premier ministre Tshibala a tenu parole. Les élections vont se dérouler dans notre pays suivant le calendrier publié par la CENI. Et aujourd'hui, on enregistre les candidatures au niveau de législative provinciale. Demain, ça sera les législatives nationales et la présidentielle. Et donc, au 23 décembre 2018, ça sera le peuple congolais qui va parler.
Jusqu'ici, le président Kabila en personne n'a pas encore dit si oui ou non il ne sera pas candidat.
Deux choses. La première, il ne s'agit pas de penser que le président Kabila va se représenter ou pas. Le président Kabila a toujours dit qu'il va respecter la Constitution. Et vous savez que nous sommes maintenant, comme je venais de le dire, dans les opérations d'enregistrement, c'est-à-dire que le président Kabila a tenu parole.
C'était Bruno Tshibala, Premier ministre de la République démocratique du Congo.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Congo-Brazzaville, les populations du Poule, déplacées lors des violences armées de ces deux dernières années, continuent d'appeler le gouvernement à les aider à retourner chez elles. Le plan de relèvement mis en place par les autorités tarde à se réaliser faute de moyens. Le gouvernement américain apporte un nouveau soutien de 1,3 million de dollars pour lancer cette opération, nous dit notre correspondant Arsène Séverin, qui s'est rendu à Mindouli lors du lancement de cette opération.
Les déplacés du Poule, candidats au retour dans leur village, font face au défi du relèvement, c'est-à-dire qu'il faut être assez courageux pour retourner, recommencer la vie à zéro avec rien, car tout a été détruit. Les sinistrés du Poule l'indiquent ici eux-mêmes.
Il n'y a rien, aucune chose. On vit pas avec le cadeau de rue qu'on avait donné par le PAM, les haricots, plus un peu de gari, c'est ce qu'on vit. Mais pour le manioc, vraiment, aujourd'hui, on n'a rien.
C'est difficile, très tellement difficile. On souffre ici, on souffre beaucoup ici.
Basile Kumpadissa, un agriculteur en chômage, ajoute.
On a tout perdu, on n'a plus rien. Les poissons qui étaient avec nous, les assoyants, ils ont tout gaspillé, ils ont tout pillé. Jusqu'au même aux petits éléphants, eux, les bêtes, ils ont pillé, on n'a plus rien. Vraiment, nous sommes presque à terre. Il faut un appui pour avoir une bonne départ.
Oscar Diabankwizi, chef du village Loutéété dans le district de Mindouli, insiste que sans aide consistante, il n'est pas possible de retourner dans un village quasiment effacé de la carte du Congo.
Nous avons été sévis par une crise sociopolitique et nous avons perdu beaucoup de choses. Les maisons incendiées, détruites, cassées, en partie tout comme entier, les matériels aratoires volés. Donc il nous faut en fait un bon soutien.
Le maire de Mindouli, Jean Bosco Mahungu, vit au quotidien les plaintes de ces déplacés de Mini qui tiennent à repartir au Berkay.
Ils étaient obligés d'attendre la fin de l'année scolaire, donc garder les enfants à l'école ici. Mais pour certains, les enfants ont presque abandonné l'école. Donc il faut accompagner des populations qui repartent en réhabilitant des infrastructures sociales, notamment l'école et les centres de santé, mais aussi accompagner les populations dans la relance des activités agro-pastorales. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, avoir ne fût-ce que la machette, c'est vraiment difficile.
Les autorités savent que le défi est énorme. À travers des promesses fermes, elles continuent de rassurer les populations vulnérables que l'appui au relèvement arrivera bientôt. Antoinette Ndinga-Ndiondo, ministre en charge de l'action humanitaire.
Nous avons compris ce message et nous sommes en train de préparer pour revenir plus tard, pour remettre et le matériel aratoire et les semences et les boutures de manioc pour que les gens reprennent leurs activités agropastorales.
Les États-Unis, à travers leur agence d'aide internationale USAID, sont encore les premiers, comme l'année dernière avec l'aide alimentaire, à apporter 1,3 million de dollars, soit environ 725 millions de francs CFA, pour soutenir le nouveau départ des déplacés qui veulent retourner dans leur village. L'ambassadeur américain Todd Haskell s'est lui-même rendu à Mindouli pour lancer cette opération. Du retour de Mindouli dans le pool, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour mettre un terme à deux décennies d'état de guerre qui avaient déchiré les deux pays frères. Quelles sont les réactions à cet accord de paix? Le processus ira-t-il jusqu'au bout? Que représentent pour l'Éthiopie les réformes que multiplie le Premier ministre Abiy Ahmed? A-t-il le soutien de toutes les couches de la population éthiopienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h30.
Retour sur la Côte d'Ivoire, qui a depuis mardi un nouveau gouvernement avec 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 pour le précédent. La nouvelle équipe est largement dominée par le RDR au pouvoir et des personnalités favorables au projet du président Alassane Ouattara d'avoir un parti unifié, faute d'un accord avec son allié le PDCI en vue des élections de 2020. Idriss Fall a recueilli la réaction de Christophe Kwame, président de CivisCI, une association de la société civile à Abidjan.
C'est un gouvernement très politique pour régler le problème du parti unifié. Et de l'autre côté, le Premier ministre a ajouté un volet social avec l'introduction de la société civile. Pour ce qui concerne le volet politique, le président Ouattara, à travers son Premier ministre, veut se donner les chances d'aller jusqu'au bout pour son projet de parti unifié.
Mais ça n'a pas consacré une rupture totale avec le PDCI.
Nous avons entendu une réaction du président Bédié qui dit que les ministres PDCI qui sont restés dans le gouvernement n'ont pas eu l'aval du parti en tant que PDCI. Donc, à l'évidence, ces ministres qui se sont alignés sur le courant, sur les traces de Foul Boigny lancées il y a 3 jours par M. Adjoumani, ont clarifié leur situation en allant au niveau du RHDP.
En arrière-fond, les élections de 2020 alors?
Absolument. Pour se donner les chances de 2020, le gouvernement avec le Premier ministre ont choisi premièrement d'écrire tout en grand que c'est un gouvernement RHDP plus la société civile. Cela a donné un remue-ménage. Qu'est-ce que la société civile va faire dans un gouvernement politique? Mais en même temps, tous les membres de la société civile ivoirienne sont sur le terrain, sont proches des populations, le porte-voix des sans-voix. Du côté purement politique, vous avez vu que pour augmenter la capacité de mobilisation sur le terrain, pour se donner les chances de 2020, plusieurs ministères ont été découpés en deux ou en trois pour certains. Donc tous ces éléments-là nous confortent que 2020 est déjà aujourd'hui au gouvernement.
Même si Alassane Ouattara n'a rien dit de ses intentions, on a comme l'impression qu'il se prépare lui-même à se jeter dans la course.
Il a annoncé lors d'une interview il y a à peine un mois que la deuxième constitution donnait les moyens d'être candidat. Les membres du parti RDR, le parti de M. Alassane Ouattara, ont annoncé il y a 3 jours seulement qu'ils proposent que le président Ouattara, qui est jusque-là président d'honneur du RDR, soit le président du parti unifié. Donc, le parti unifié, qui peut s'appeler RHDP ou non, avec tous ces micro-partis qui ont accepté d'aller dans ce gouvernement, va se donner un congrès des statuts très bientôt, avec proposition du parti majoritaire RDR, M. Alassane Ouattara, comme président de ce parti. Quelque chose se prépare. pour 2020. Donc, que le président Ouattara ait dit ou non qu'il sera candidat, il y a une suspicion légitime d'un observateur que nous sommes.
C'était Christophe Kwame, président de CIVIS-CI, une association de la société civile à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le sommet de l'OTAN se termine aujourd'hui en Belgique. Le président américain Donald Trump a encore dénoncé hier le comportement de certains alliés en matière de financement de l'Alliance. Donald Trump souhaite un partage plus équitable des dépenses militaires. Raissa Girondin a joint à Paris Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI.
La question de l'effort de défense en Europe, c'est une question sérieuse et importante et les critiques américaines à l'égard des dépenses d'un certain nombre de pays européens sont justifiées. D'ailleurs, elles ne datent pas de Donald Trump. S'il y a une continuité là-dessus du côté américain, c'est aussi parce que il y a une continuité du côté européen, une certaine quantité d'États, on va dire, à sous-investir dans leur défense. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que la situation a bien changé au cours des dernières années et finalement, la perception de la part des Européens qu'il faut accroître l'effort de défense, elle existe déjà. L'effort de défense, depuis la fin de la guerre froide, il baissait. Aujourd'hui, il augmente. Ça ne date pas de Trump, ça date de la Crimée, ça date de la réaffirmation russe, ça date également du terrorisme. Et donc, il y a une prise de conscience du côté des alliés européens de l'OTAN qu'il fallait investir davantage dans leur défense.
Donc, qui est le mauvais élève dans cet effort d'investissement?
Alors, le mauvais élève que blâme Trump, c'est évidemment l'Allemagne, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que bon, l'Allemagne a des plans d'accroissement de son budget de la défense, qu'il soit perçu comme suffisant ou non, c'est autre chose. Mais on ne passe pas d'une situation où on dépense 1,3% du PIB à une situation où on dépense 2% en 2 ans. C'est impossible. Ce serait de l'argent jeté par les fenêtres qu'on ne saurait pas utiliser.
Il aurait peut-être par là dénoncé aussi une relation très particulière entre les Allemands et les Russes.
Il y a des connexions qui existent entre l'économie allemande et l'économie russe, mais l'Allemagne n'a pas cherché à freiner l'adaptation de la posture de l'Alliance face à la Russie du tout. Puis depuis 2014, à mon sens, la critique n'est pas justifiée. Il y aurait d'autres pays qui seraient peut-être plus exposés face à ce genre de critique.
Alors aujourd'hui, à quoi sert l'OTAN?
La question de la pertinence de l'OTAN se posait particulièrement après la guerre froide, parce qu'on ne voyait pas quelle pouvait être la menace majeure qui pourrait mettre en danger l'Europe collectivement. On voit aujourd'hui que celle-ci n'a pas totalement disparu et qu'elle peut réémerger, y compris rapidement. Donc il y a déjà une nécessité de défense collective, même du point de vue strictement américain. Alors, les 700 milliards de dollars que les États-Unis dépensent pour leur défense ne sont pas 700 milliards qui vont à l'OTAN. Il y a un certain nombre de déploiements, de capacités qui vont en Europe et dont l'Europe est reconnaissante. Mais c'est aussi un instrument d'influence assez exceptionnel, c'est-à-dire la capacité américaine à pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui peuvent les aider dans les opérations, peut-être pas en Europe, mais peut-être au Moyen-Orient, par exemple, ou en Afrique, où les États-Unis ont pu être heureux, notamment pendant la guerre en Irak ou en Afghanistan. Les États-Unis étaient heureux de pouvoir compter sur des alliés, parce que ça a une valeur politique, ça a une valeur militaire, de ne pas avoir à s'engager seul sur des théâtres extérieurs.
Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, joint à Paris. Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Georges Léonard Sagnou pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.